Nous sommes le 27 novembre. Je me permets de le rappeler parce qu'il ne nous reste plus que 34 jours pour réaliser nos bonnes résolutions 2016. Dans 35 jours, il sera temps de prendre les résolutions 2017 qui seront peut-être celles de tenir, celles de 2016 qu'on n'avait pas réussi à tenir. Ce matin, pour nous encourager dans cette démarche, nous allons voir une histoire. C'est celle d'Esdras et du peuple d'Israël. Dans cette histoire, il était aussi question de bonnes résolutions. Et vous pourrez ouvrir vos Bibles dans Esdras chapitre 9. Esdras, si vous le cherchez, c'est juste après Roi Chronique, vers le début, quoi. Le contexte de tout ça, d'Esdras, c'est que pendant des années, des centaines d'années, Dieu a dit au peuple d'Israël, c'est pas bien ce que vous faites, il faudrait changer. Ils ont continué, puis à un moment, Dieu en a eu marre, ils sont partis en déportation, en exil. Ils sont partis à Babylone. Donc il y a eu cette période où on a Daniel, par exemple, avec le peuple d'Israël à Babylone. Donc ça, c'était les Babyloniens. Et puis les Perses sont arrivés. Les Babyloniens ont perdu. Donc c'est l'Empire perse qui a pris sa place. Nouveau mode de gestion des provinces. Les empereurs perses disent, c'est bon, vous pouvez retourner chez vous, vous pouvez retourner à Jérusalem et reconstruire votre temple. Ça, c'était Cyrus et Artaxerxès. Pardon. Esdras, lui, a les pleins pouvoirs dans cette mission de revenir à Jérusalem. C'est un peu le chef de la bande. Je dis bande parce que finalement, ils ne sont pas très nombreux. Ils sont bien moins nombreux à revenir de Babylone qu'à en être partis. Il y a eu 60 ans qui sont passés d'exil à Babylone. Et pendant ce temps-là, le peuple d'Israël, les hommes, du moins, se sont mariés avec des femmes étrangères, des femmes qui étaient à Babylone, là où il y avait une myriade de peuples. Et ça pose problème. Et on va lire juste le verset 1 et 2 pour nous mettre dans le contexte du problème. Donc, Esdras 9, je lis les versets 1 et 2. « Quand tout cela fut terminé, quelques chefs d'Israël m'abordèrent en disant « Ni le peuple d'Israël, ni les prêtres, ni les lévites ne se sont séparés des gens du pays. » et n'ont rompu avec leurs pratiques abominables. Ils se sont conduits exactement comme les Cananéens, les Hittites, les Phérésiens, les Yébouséens, les Ammonites, les Moabites, les Égyptiens et les Amoréens, car ils ont épousé les filles de ces étrangers et les ont données en mariage à leurs fils. Ainsi, la descendance sainte s'est mêlée au peuple de ces pays, les chefs et les dirigeants sont les premiers rendus coupables d'une telle infidélité. » Voilà le contexte. Le passage qu'on va étudier, c'est après cette prise de conscience, on va lire depuis le verset 10 du chapitre 9 jusqu'au verset 5 du chapitre 10. 5, oui, 5, pas 6. Maintenant, après ce qui est arrivé, que dirons-nous, ô notre Dieu ? Car nous avons désobéi au commandement que tu nous avais transmis par l'intermédiaire de tes serviteurs les prophètes. Tu nous avais prévenus en disant « Le pays dans lequel vous entrez pour en prendre possession est souillé par l'impureté des populations de ces contrées et l'ont rempli d'un bout à l'autre de leurs pratiques abominables et de leurs actions impures. Ne donnez donc pas vos filles en mariage à leurs fils et ne prenez pas leurs filles pour vos fils. Ne vous préoccupez jamais de leur postérité ou de leur bien-être si vous voulez devenir fort. Mangez les meilleurs produits du pays et laissez pour toujours en héritage à vos descendants. Tout ce qui nous est arrivé est la conséquence de nos mauvaises actions et de notre grande culpabilité. Et encore, ô notre Dieu, tu ne nous as pas punis comme le méritaient nos péchés, tu nous as laissé subsister ce reste de notre peuple. Alors, après cela, pouvons-nous recommencer à transgresser tes commandements et à nous allier par mariage à ces nations qui se livrent à des pratiques si abominables ? Ne vas-tu pas t'enflammer de colère contre nous au point de nous exterminer sans nous laisser ni reste ni rescapé ? Éternel, Dieu d'Israël, tu es juste et tu as laissé subsister un reste de notre peuple jusqu'à ce jour. Nous voici devant toi avec notre culpabilité, alors que personne ne peut tenir en ta présence. Pendant qu'Esdras, prosterné devant le temple de Dieu, faisait cette prière et cette confession en pleurant, une foule très nombreuse d'hommes et de femmes et d'enfants d'Israélites s'était rassemblée autour de lui et tous pleuraient abondamment. Alors, Shekania, fils de Yehiel, un descendant d'Élam, prit la parole et dit à Esdras, « Nous avons été infidèles envers notre Dieu en épousant des femmes étrangères prises parmi les peuples du pays. Mais malgré cela, il reste encore une espérance pour Israël dans cette affaire. Engageons-nous maintenant par une alliance avec notre Dieu à renvoyer toutes ces femmes avec leurs enfants, conformément au conseil de Monseigneur Esdras et de ceux qui respectent les commandements de notre Dieu. Que la loi soit observée. Lève-toi, car c'est à toi de régler cette affaire. Mais nous sommes avec toi. Prends courage et agis. » Alors Esdras se releva et fit prêter serment aux chefs des prêtres, des lévites et de tout Israël d'agir comme il venait d'être dit. Ils en firent tous le serment. Bon, pas très joyeux. J'ai construit ce message en trois parties. Péché, repentance, engagement. Ça suit l'ordre du passage. Notre texte commence par la fin de cette prière d'Esdras à Dieu, qui, accablé par le fait qu'il reconnaît le péché de son peuple, se demande quelle est la suite du programme. Et ça, c'est mon premier point. Nous sommes pécheurs et Dieu pardonne. Au verset 13, Esdras avoue qu'ils sont pécheurs, qu'ils sont fautifs. C'est la conséquence de nos mauvaises actions, dit-il. Il reconnaît la justice de Dieu dans l'exil de son peuple à Babylone. Il se rappelle que dès le début, l'Éternel avait prévenu le peuple de rester un peuple qui lui est fidèle. Le commandement était, comme il l'est rappelé au verset 12, de ne pas se mélanger avec des populations impures, qui ne sont pas fidèles à l'Éternel, qui ont des pratiques qui lui sont abominables. En revenant d'exil marié avec des femmes d'autres peuples, il rentre de nouveau dans la terre promise à Josué et Moïse. Cette similarité entre le retour de Babylone vers Jérusalem et l'arrivée depuis l'exode d'Égypte en terre d'Israël fait écho. Il y a ce même problème d'impureté au moment de rentrer dans le pays. Toutefois, Dieu est patient. Ils ont quand même pu revenir d'exil, malgré le fait d'être mariés avec des femmes de Babylone. Si on prend un peu de hauteur, l'histoire du peuple hébreu, c'est un peu toujours la même chose. Les hommes d'Israël font ce qu'il déplaît à Dieu. Bien plus tard, quand c'est presque trop tard, ils s'en rendent compte. Ils se sentent vraiment coupables à ce moment-là. Ils demandent pardon, l'Éternel les pardonne. Ici, le nœud du problème, c'est que Dieu a déjà pardonné pour les péchés de leurs ancêtres. Ils ont été en exil, ils en sont revenus. C'est la marque du pardon du péché des ancêtres. Pas de chance, ils sont revenus avec un nouveau péché. La pensée d'Esdras au verset 14 et 15 le dit ainsi. Alors, après cela, pouvons-nous recommencer à transgresser tes commandements et à nous allier par mariage à ces nations qui se livrent à des pratiques si abominables ? Ne vas-tu pas t'enflammer de colère contre nous au point de nous exterminer, sans nous laisser ni reste ni rescapé ? Éternel, tu es juste et tu as laissé subsister un reste de notre peuple jusqu'à ce jour. Nous voici devant toi avec notre culpabilité, alors que personne ne peut se tenir ainsi en ta présence. Et maintenant, qu'y aura-t-il de plus fort que l'exil à Babylone pour punir ce péché qui persiste ? Pas de solution. La culpabilité est écrasante, à la fin du verset 15. Je ne sais pas si vous avez l'habitude de voir des séries ou des films, notamment américains, où on a ce coupable qui voit son avocat et puis ils essayent de remuer un peu la situation, voir comment s'en sortir. Ils font le tour du problème et pas rien, pas d'alibi, rien. Trop de preuves, trop de témoins. Devant le juge, l'accusé arrive et, pour espérer obtenir une condamnation allégée, il plaide coupable. Dans notre cas, je ne sais même pas dire si Esdras souhaite une peine allégée. Il ne sait pas ce qu'est une peine après l'exil à Babylone. Mais il voit mal Dieu surenchérir, pour le coup. Exterminer tout le monde ? Super comme solution. Le reste du peuple qui a survécu à l'épisode de Babylone sait qu'il vient juste de réchapper au pire. Dieu, dans sa justice, aurait pu tuer tout le monde. Esdras a peur et subit sa propre culpabilité. Mais Shekania voit une lumière au bout du tunnel, une porte de secours. Et j'en arrive à mon second point qui est espoir et repentance. Au verset 2, Shekania dit, du chapitre 10, « Mais malgré cela, il reste encore une espérance pour Israël. Engageons-nous maintenant à renvoyer ces femmes et leurs enfants. » C'est surtout renvoyer les femmes, en fait. La garde des enfants était de facto attribuée aux femmes, donc les enfants partent avec les femmes. Mais ils n'ont rien contre les enfants, pour le coup. Ce chapitre 2 commence avec l'espoir. L'espoir de revenir à ce que l'Éternel souhaitait dès le départ. Le coup est lourd. Il faut se séparer des femmes non israélites avec qui ils s'étaient mariés lorsqu'ils étaient à Babylone. Ainsi, le peuple pourrait prendre un nouveau départ. Ils sont de retour de l'exil. La sentence pour les péchés des générations précédentes a été purgée. Imaginez le peuple comme un prisonnier qui sort en fin de prison. La peine qu'il avait reçue pour le mal qu'il avait fait dans le passé est purgée. De nouveau, juste devant la porte de la prison, à l'extérieur, dans la rue, il est en pleine possession de son libre arbitre. Il est devant le choix de changer de vie ou de revenir au mal qu'il faisait. Il sait que s'il se fait attraper une seconde fois, la peine sera plus grande. La position de Shekania est de faire une croix sur la vie passée et de revenir dans le droit chemin. Dans l'Ancien Testament, donc avant Jésus, c'est l'héritage de l'alliance entre Abraham et Dieu et le respect de la loi de l'Éternel qui compte. Dans le Nouveau Testament, après Jésus, nous croyons que de toute façon, le problème est à la base. Nous le portons en nous. L'homme, depuis Adam, depuis le premier homme, est pécheur. Rien n'empêchera sa nature d'être ainsi. Nous le voyons dans notre capacité à faire le mal autour de nous. Si je reprends mon prisonnier qui sort de prison, le fait qu'il se repose la question de refaire le mal confirme que sa nature porte le péché. J'ai tapé « récidive fait divers » dans Google. Voici quelques titres d'articles que le site 20 minutes m'a proposés. 4 octobre, Rennes, interpellé. Dimanche, le voleur de scooter récidive le lendemain. 20 octobre, Rodez. Le papier aux 2000 cambriolages arrive au tribunal en pantoufles. 15 novembre, Nice. Après 23 condamnations, il retourne en prison le lendemain de sa sortie. 22 novembre, Perpignan. À 30 ans, il compte déjà plus de 30 condamnations. Je me suis arrêté là. Devant ce constat, le péché est en nous. Et l'Éternel a apporté une réponse. En croyant en Christ, nous échappons à Babylone. Nous échappons à la sentence promise par Dieu aux pécheurs. Jésus, en payant le coût, en purgeant la peine à notre place, ne nous laisse que le choix de vouloir changer ou de rester dans notre ancienne vie. Reconnaître son péché, savoir que Dieu pardonne et espérer dans quelque chose de mieux est un terrain idéal pour s'engager à changer. Esdras l'avait compris. Et avec Jésus, comment ça fonctionne ? Peut-être que les leçons de code de la route, c'est loin pour certains. Cette photo a été trafiquée, je vous rassure. Donc, il y a un problème. Il y a un problème. Hein. La voiture avance. Sur la photo, ça ne se voit pas, mais la voiture avance. Donc, j'avance tranquillement. Je dois soit, petit A, accélérer pour essayer de traverser le mur entier. Petit B, fermer les yeux et espérer que le mur disparaisse. Pas bête. Hein. Petit C, je vais essayer de passer à droite du mur. Hein, juste à côté du panneau, là, entre le fossé et le panneau, on va voir. Ou alors, petit dé, je m'arrête et je fais demi-tour. Je vous laisse répondre vous-même. La repentance, ça va plus loin que le regret. Elle inclut la volonté de demi-tour, de changer. Quand votre GPS vous implore de faire demi-tour, il ne sera satisfait que lorsque la direction vers laquelle vous alliez sera dans votre dos. Dans l'évangile de Matthieu, au chapitre 3, Jean-Baptiste annonçait « Repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. » Jésus, au chapitre suivant, dira la même chose, mot pour mot. Tout comme le peuple d'Israël est censé avoir laissé son passé de pécheur à Babylone, Jésus offre à celui qui accepte de croire en lui de lui laisser son passé de pécheur et de prétendre à autre chose, une autre vie. L'apôtre Paul nous encourage un peu plus loin dans la lettre aux Romains. Que dirons-nous ? Demeurions-nous dans le péché afin que la grâce abonde ? Loin de là ! Nous qui sommes morts au péché, comment vivrions-nous encore dans le péché ? Ignorez-vous que nous tous qui avons été baptisés en Jésus-Christ, c'est en sa mort que nous avons été baptisés ? Nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême en sa mort, afin que, comme Christ est ressuscité des morts, par la gloire du Père, de même, nous aussi, nous marchions en nouveauté de vie. C'est en Christ que nous sommes sauvés, et toujours en Christ que nous avons les moyens de changer radicalement. Nous sommes morts avec Jésus pour nos péchés. Comment pourrions-nous vivre de nouveau en tolérant le péché dans nos nouvelles vies ? Comment faire ? C'est mon point 3, celui d'une alliance avec Dieu, d'un engagement. Je vais relire le verset 3 du chapitre 10. Engageons-nous maintenant par une alliance avec notre Dieu à renvoyer toutes ces femmes avec leurs enfants, conformément au conseil de mon Seigneur Esdras et de ceux qui respectent les commandements de notre Dieu. Que la loi soit observée. Renvoyer les femmes pour les Israélites, c'est se séparer de sa vie d'avant. Shekania. Que la loi soit observée. Nous ne sommes plus sous le régime de la loi, mais sous le régime de la grâce. Dit avec des mots plus courants, notre relation avec Dieu n'est plus basée sur le respect des commandements de Dieu, mais sur la relation de dépendance que nous entretenons avec Jésus-Christ. Esdras nous dit, finalement, à nous, du Nouveau Testament, que Jésus est la première place en toute chose dans notre vie. Vivre cette relation avec Jésus contre le péché au jour le jour, c'est difficile. Prier dans l'adversité, lorsqu'on est tenté de toutes parts, et surtout sur nos faiblesses, c'est vraiment pas simple. Pour conclure cette alliance avec l'Éternel, pour s'engager, j'ai sorti 3 hypothèses de comportement qu'on pourrait avoir par rapport au péché. La première hypothèse, c'est de dire « je suis fort, je suis plus fort que le péché ». Mais non, seul Dieu peut vaincre définitivement le mal, et il l'a déjà fait, à la croix. Vouloir être ou paraître fort et se débrouiller par ses propres moyens, c'est peine perdue. Essayez, vous verrez. La deuxième solution, c'est pas bête, c'est de prier au Seigneur de ne plus être tenté. Et plus de problème, plus de solution à trouver. Facile. Malheureusement, Dieu ne souhaite pas que nous vivions dans une bulle. Les épreuves font grandir et Dieu est fidèle et ne permettra pas que nous soyons tentés au-delà de nos forces. C'est ce qu'il dit dans le premier livre aux Corinthiens au chapitre 10. La troisième hypothèse, ce serait de dire « Seigneur, je n'en suis pas capable et je dépose tout à tes pieds. » Lâchez prise, car Jésus a déjà vaincu le mal à la croix, par sa mort, mais aussi par sa résurrection. Nous pouvons tout lui remettre et accepter le fait que nous en sommes incapables par nos propres forces. Aujourd'hui, dans notre contexte, le terme « alliance de Dieu » n'a plus la même signification qu'auparavant. Dieu recherche des adorateurs qui l'adorent en esprit et en vérité. Dieu s'est fait reconnaître sa toute-puissance. Adorer Dieu, c'est aussi reconnaître sa toute-puissance et le laisser contrôler notre vie. Je nous encourage à lâcher prise et à remettre dès maintenant nos faiblesses au pied de la croix, à Jésus, pour qu'il s'en charge à notre place. Donc voilà, plus que 34 jours jusqu'à la fin de l'année. C'est peut-être aussi le bon moment pour réfléchir à ce que vous voudriez être, à ce que vous voudriez faire en 2017. Si vous êtes intéressé pour en savoir plus de la foi de Jésus-Christ, adressez-vous aux responsables de l'Église. Si vous êtes intéressé par le baptême, même réponse. Si vous voulez grandir dans votre foi et ne pas garder les mêmes travers dans votre vie, les groupes de maison et l'étude biblique reprennent et ont repris. Ces deux temps sont nos temps que cette Église propose pour essayer de grandir ensemble. Prions. Seigneur notre Dieu, merci pour ta parole, merci pour ta parole qui fait grandir. Tu nous as déjà donné tous les éléments, tu nous as donné la mort de Jésus à la croix, tu nous as donné l'Esprit Saint, tu nous as donné des frères et sœurs. Tu nous as donné tous ces éléments pour que nous puissions grandir. Seigneur, accepte-nous tels que nous sommes, avec nos craintes, avec nos faiblesses, avec nos comportements d'adolescents parfois. Aide-nous à persévérer. Aide-nous à vivre pleinement une relation dynamique avec toi, par l'amour de ton Fils Jésus-Christ. Amen.